Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Michel Audin. Michel, je ne sais pas trop si tu es mathématicienne, historienne, auteure, poétesse. Dis-moi en quelques mots qui tu es et qu'est-ce que tu fais.
Je suis mathématicienne de formation. Je fais plus beaucoup de mathématiques, parce que ça s'est trouvé comme ça, et parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire, aux histoires aussi. Donc, disons, j'écris des livres. Je continue à écrire des livres comme quand je faisais des mathématiques, mais il y a un peu moins de mathématiques dedans. Je m'intéresse particulièrement à l'histoire de la Commune de Paris, parce que c'est un moment d'histoire où il y a des tas d'inconnus dont on peut parler, des tas de gens dont personne ne parle jamais, dont on n'écrit pas l'histoire.
Quand nous chanterons,
je n'ai pas pu résister, bien sûr, c'est la chanson « Le temps des cerises » qui symbolise la Commune, même si elle a été écrite quelques années auparavant par Jean-Baptiste Clément. Vous reconnaissez l'interprétation par Yves Montand. Alors, on va parler aujourd'hui d'une chose très, très particulière sur la Commune, c'est qu'est-ce qui se passait pendant la Commune, ici, à l'Académie des sciences. Mais fais-nous d'abord un tout petit rappel historique là, pour les gens qui ont un peu oublié. C'était quand? Qu'est-ce qui se passe? Le siège de Paris? Dis-nous rapidement ce qui s'est passé.
Voilà, il y a un siège de Paris par l'armée prussienne entre septembre 1870 et janvier 1871, qui est la suite des défaites de cette guerre franco-prussienne menée par Napoléon III. Ce siège, c'est un moment très difficile. Il n'y a rien à manger, il fait très froid. Puis ça se termine par une capitulation dont apparemment les Parisiens n'étaient pas très contents. Pendant ce siège, les Parisiens se sont munis d'armes et de canons en particulier pour combattre les Prussiens qui n'ont pas beaucoup servi, mais qui sont là. Et le gouvernement, qui est un gouvernement, disons, de droite, monarchiste même, je dirais, à l'époque, pas très content de voir des ouvriers avec des canons. Le jour où Thiers veut s'emparer des canons, c'est un début d'insurrection. Et Thiers n'était pas un grand courageux, donc il fuit à Versailles. Et voilà, donc la Commune, c'est dans Paris.
Alors, à ce moment-là, dans ce tourbillon, c'est vraiment compliqué ce qui se passe. Eh bien, au milieu de Paris, là, à l'Institut de France, il y a l'Académie des sciences qui tente, tant bien que mal, de continuer à faire de la science.
Ils continuent plutôt bien que mal, je dirais, en fait, parce qu'ils sont peu nombreux.
Les belles auront la folie.
Et je vais commencer par lire une phrase écrite par un journaliste communard qui a écrit une très belle histoire de la Commune après, et qui s'appelle Prosper Olivier Lissagaret. Alors il écrit comme ça. L'Académie des sciences tient toujours ses séances du lundi. Monsieur Delaunay est au fauteuil. Je vais puis citer tout ça après. Monsieur Élie de Beaumont dépouille la correspondance et lit une note de son collègue, monsieur J. Bertrand, qui s'est enfui à Saint-Germain. Ce mathématicien stérile n'est pas pour les audaces créatrices, n'ayant jamais pu avoir un théorème naturel. Nous trouverons demain le compte-rendu dans l'officiel de la Commune. Donc c'est quelques lignes, mais je trouve qu'il y a pas mal de choses.
Les amoureux du soleil au cœur.
L'Académie des sciences se réunit tous les lundis après-midi de mémoire d'homme. Et surtout publie un fascicule de compte-rendu chaque semaine. Ainsi, on a une idée de ce qui se passe presque au jour le jour. Mais à cette époque-là, comme les académiciens touchent de l'argent quand ils viennent à une séance, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il faut qu'ils signent une liste d'émargement pour être payés.
On peut même préciser que dans cette liste d'émargement, ceux qui arrivent en retard sont indiqués en dessous d'une ligne et ils ne touchent pas à la somme en question.
C'est vrai aussi, oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Donc on sait exactement qui était là. Donc pendant la Commune, c'est très court, ça dure du 18 mars, qui est un samedi, au 28 mai, qui est un dimanche, 1871. Et donc, il y a un certain nombre de dates qui sont des lundis là-dedans, les 20, 27 mars. Il y a 4 dates en avril et 4 dates en mai. Donc, ça fait 10 séances, sauf qu'il y en a une qui n'a pas eu lieu, mais ça, j'expliquerai à la fin pourquoi.
Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, éviter les belles.
Et il y avait seulement une vingtaine de personnes sur, disons, 75 ou 80 académiciens des sciences. Il y a beaucoup de Parisiens qui avaient quitté la ville avant le siège, au début du siège, en particulier parmi les bourgeois, dont naturellement les académiciens font partie. Donc il y en a beaucoup qui étaient partis avant.
Parce qu'ils avaient peur, tout simplement.
Ah oui, oui, ça. Ils avaient un endroit pour où aller ailleurs. Et puis, ils avaient peur des Prussiens, ils avaient peur du siège, ils avaient bien raison d'avoir peur du siège. Et donc, on les appelait des francs-fileurs.
Sympa.
Voilà. Le président de l'Académie des sciences était à l'époque un mathématicien qui s'appelle Joseph Louville. Il était là pendant le siège, mais lui, il est parti en janvier. Et je n'ai pas vu de trace de où il était parti. Et donc, il y en a pas mal qui ont quitté Paris pendant la Commune. C'est une nouvelle peur. C'est le cas notamment du vice-président, qui était un astronome, Hervé Faye, qui donc remplaçait Louville.
Mais on pouvait quitter Paris facilement ?
Alors, justement, lui, il est parti assez tôt. En fait, il y a eu un moment où ça a été difficile. Paris était enserré dans ses fortifications. C'était pas si facile que ça, mais au mois de mars, il n'y avait aucun problème. La guerre qu'a menée Versailles contre la Commune de Paris, ça a commencé le 2 avril. Donc avant, c'était assez facile. Faye est parti, obligé de conduire sa famille en province.
Ah bah oui.
Et voilà, donc... Il priait
Qui sommes-nous pour nous moquer ?
Il priait l'Académie des sciences de recevoir ses excuses pour cette absence involontaire qui l'empêche d'assister à la séance d'aujourd'hui. En fait, il ne reviendra pas.
Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour.
Comme l'a dit notre journaliste communard, c'est Delaunay qui préside les séances. Et c'est lui qui a présidé toutes les séances pendant la Commune. C'est un astronome, un spécialiste de la Lune. Lisa Garret nous a dit aussi qu'on allait trouver le compte-rendu dans l'officiel de la Commune. Donc, il faut savoir qu'il y avait un journal officiel à Paris. Tous les journalistes étaient partis et donc les communards ont récupéré les lieux du journal officiel, qui n'était pas très loin d'ici, sur le quai Voltaire. Et donc, ils ont fait paraître un journal officiel pendant la Commune. Il faut surtout savoir qu'à l'époque, il y avait des comptes rendus officiels tous les lundis, mais la plupart des journaux envoyaient un correspondant à l'Académie des sciences, parce qu'en ce temps-là, les sciences, ça faisait partie de la culture. Et donc, il y avait des comptes rendus dans les journaux, et notamment dans le journal officiel, qui avait une partie non officielle. Et bien entendu... Les communards, quand ils ont pris le contrôle du journal officiel, ils ont choisi un journaliste pour aller faire les comptes rendus. On va revenir. Il y a en particulier un compte rendu de la séance dont parle Lisa Garret dans le journal officiel. Et ce compte rendu, c'est la séance du 15 mai. Donc c'est à la fin de la Commune. On lit dans le journal officiel de la Commune, écrit par un journaliste communard, « Monsieur Élie de Beaumont, secrétaire perpétuel, procède au dépouillement de sa correspondance et lit une lettre de Monsieur Joseph Bertrand, envoyé de Saint-Germain et traitant du vol des oiseaux. Le savant académicien y fait l'historique complet de la question et passe en revue tous les travaux qui ont été publiés sur cet intéressant sujet. Joseph Bertrand, mathématicien, il avait un lieu de repli à Saint-Germain puisque son frère Alexandre Bertrand dirigeait le musée d'archéologie qui venait d'être fondé à l'époque à Saint-Germain.
J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte.
Peut-être on va se concentrer un peu sur la séance du 15 mai. Premièrement, il y a eu l'annonce de la mort d'un académicien. C'était un chimiste qui s'appelait Anselme Payen, qui était assez âgé, mais il était là et il était intervenu dans des séances précédentes.
Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur.
L'autre chose dont je veux parler, c'est l'intervention d'un mathématicien que j'aime beaucoup, qui est Michel Schall, celui de la relation Schall, dont on dit toujours beaucoup de mal et dont on se moque toujours beaucoup.
Ah, pas moi.
Mais pas moi non plus. Voilà, donc c'est un vieux monsieur, il avait 78 ans, il était présent et il était actif. Il a assisté à toutes les séances et il a proposé à toutes les fois, sauf une, des résultats. Et entre le 3 avril et le 15 mai, il a présenté 300 théorèmes. C'est une accumulation poétique que je trouve absolument fantastique. Bien sûr, ces 300 théorèmes ne sont pas tous différents les uns des autres, ce sont tous des variations sur un même thème. D'abord, il y en a 150, et puis il a aussi une machine qui multiplie les théorèmes par deux. Voilà, donc, mais en même temps, c'est très intéressant, je trouve, parce que ça montre exactement ce qui se passe à l'Académie des sciences à ce moment-là. D'abord, ça fait des notes qui sont trop longues.
Est-ce que ses confrères l'écoutaient ?
Ça, c'est une excellente question, mais le journaliste, lui, l'écoute.
Parce que ce sont quand même des théorèmes qui ne sont pas si faciles à expliquer.
Surtout qu'il n'explique pas, c'est que des énoncés, voilà, en fait. Et tous les énoncés sont les mêmes, essentiellement. C'est une courbe comme ci à des choses comme ça. Voilà, donc je ne sais pas si les gens l'écoutent, mais en tout cas, il est là et il amène son travail à chaque fois. Ce qu'il démontre, c'est que la science continue. C'est exactement ça, en fait.
Et ce qu'il démontre que la science continue et qu'il n'en a rien à fiche de ce qui se passe à côté de lui ?
Alors, je ne sais pas si c'est ça. Quoi qu'il se passe, la science continue. C'est, évidemment, ces messieurs qui sont à l'Académie des sciences, je pense que pour la plupart, ils ne sont pas favorables à la commune. Enfin, même ceux qui sont présents, je veux dire. Il y en a peut-être qui sont un peu plus républicains, disons, que les autres, mais...
Donc c'est en gros « the show must go on ».
Exactement, sauf que peut-être ils ne le disent pas comme ça.
Je ne crois pas.
En même temps, c'est ce que j'appellerais une convergence objective entre ce que veulent les académiciens et puis ce que veulent les communards. Notre journaliste communard, il nous a dit, ce ne sont pas les ouvriers qui ont dit « la République n'a pas besoin de savoir ».
Quand on lit ce que ce journaliste écrit en disant « le sujet très intéressant du vol des oiseaux », est-ce qu'il n'y a pas un peu d'ironie là-dedans ?
Évidemment, il y a de l'ironie. Il n'a pas lu le texte. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas du tout compris, c'est pourquoi il dit que ce mathématicien n'est pas pour les audaces créatrices et n'a jamais pu avoir un théorème naturel. Je ne sais pas qui lui a dit ça. Ça n'apparaît pas dans les...
Alors, entre toi et moi, on est bien d'accord que Bertrand n'est pas le plus grand mathématicien du monde.
Okay, il avait une façon d'écrire les mathématiques assez déplaisante, faut dire la vérité. Ok, voilà. Les communards, ils veulent que la science continue, puis les scientifiques aussi. Donc on est tous d'accord, tout va bien. Peut-être dire deux mots sur la mort d'Anselme Payen, parce que l'Académie n'en parle pas beaucoup, mais le journaliste de l'Officiel est allé à son enterrement. Donc, il est mort le samedi 13. Le compte-rendu de l'enterrement est dans le même article qui rend compte de la séance du 15. Il écrit « Un deuil vient d'affliger la science ». Donc ça, c'est un journaliste communard qui écrit ça. « Un deuil vient d'affliger la science. Monsieur Payen est mort subitement samedi dans sa maison de Grenelle, donc dans le 15e aujourd'hui. Les funérailles ont eu lieu hier et malgré les obus versaillais qui tombaient fréquemment dans les quartiers environnants, le convoi de l'illustre défunt était fort nombreux. L'Académie était représentée par 7 de ses membres. C'est Monsieur Dequesne qui a prononcé sur la tombe le discours d'usage. » Donc, cimetière de Vaugirard, c'est sous les fortifications. Puis c'est dans la direction de Versailles, donc c'est très près de l'endroit où l'armée versaillaise envoyait ses obus.
« On fusille !» Ce qu'on ramasse au hasard, la mère à côté de sa fille, l'enfant dans l'air.
Le dimanche qui a suivi, c'est-à-dire le 21 mai, l'armée versaillaise est entrée dans Paris. Par la porte de Saint-Cloud, la ville s'est défendue par un réseau de barricades. On dit qu'il y avait 600 barricades dans Paris. Et ainsi, les abords du palais de l'Institut ayant été rendus inaccessibles lundi 22 mai par les barricades qui l'environnaient, l'Académie n'a pu tenir sa séance hebdomadaire. Le 28 mai, c'est le dimanche, c'est fini. Et le 29 mai, il y a une nouvelle séance où on lit la phrase que je viens de dire, qui vient de se passer dans la semaine du 21 au 28 mai. Les gens ne le savent peut-être pas vraiment, mais c'est la semaine sanglante qui a un vrai massacre incroyable dans les rues de Paris, où on évalue le nombre des tués à quelque chose entre 12 000 et 30 000. On ne sait pas. On sait pas. Il y avait des morts dans toutes les rues, c'était assez impressionnant. Et la science continuait. Dès le 29 mai, les académiciens se retrouvent. Cette fois, Delaunay a pu quitter Paris pour aller voir sa vieille mère. Donc c'est Michel Chevreul, qu'il fallait nommer aussi, qui était un vieux monsieur, était presque centenaire, qui était un chimiste, qui avait lui parlé de floraison de jacinthe pendant la commune à l'Académie des sciences, et qui dirigeait le Muséum d'histoire naturelle. Au mois de janvier, il avait poussé une grosse gueulante, si tu me passes l'expression, parce que les Prussiens avaient bombardé les serres. Et là, par contre, ça s'était bien passé au muséum, mais parce qu'il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui des agents logés, donc ils habitaient là, alors qu'au Gobelin, où il n'y avait personne, ça a un petit peu brûlé quand même.
Et gare à la revanche, quand tu les fous, voici le métro.
Retour d'Hervé Faye. Dès la semaine suivante, le 5 juin, Hervé Faye était de retour. Il a déclaré, donc là on ne va pas être ironique, c'est lui qui dit « En revenant à Paris après une absence forcée et une angoisse de 2 mois, je me félicite de retrouver au milieu de tant de ruines l'Institut debout et de n'avoir aucun de nos confrères à compter parmi les illustres et innocentes victimes de cette insurrection anti-française. » Vous avez tenu fermement, en ces temps néfastes, le drapeau de la science, montrant ainsi au monde entier que si Paris peut cesser un instant d'être le centre politique de notre pays, il n'abdique pas du moins son rôle séculaire de capitale des sciences et des arts. Ce qu'on ne sait pas, c'est si les collègues ont souri de son angoisse ou pas.
Comme un légende, la police refleurira.
C'est aussi Jean-Baptiste Clément qui a écrit cette chanson « La semaine sanglante » interprétée par Yaya Bossa.
Par des moussards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.